Dans le psaume 130, il y a un cantique qui nous rappelle une grande vérité. Psaume 130, verset 1er et verset 4, au verset 4. Vous avez envie d'écouter la parole ? Psaume 130, verset 1er. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Je ne sais pas où vous êtes ce matin, pas géographiquement. Géographiquement, je sais où vous êtes. Mais spirituellement, vous savez qu'on peut être tous réunis dans le même endroit. Un peut être dans les verts pâturages, l'autre peut être dans le désert, l'autre peut être dans l'abîme. Eh oui. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Amen. Une autre lecture, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 9, nous allons lire le verset 22. Et je voudrais que vous regardiez bien ce verset pour que nous prenions la Sainte-Cène tout à l'heure avec beaucoup de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous l'avez certainement appris depuis longtemps, vous l'avez entendu, réentendu ce matin par le biais des cantiques, par le biais de la prophétie. Mais l'apôtre Paul dit aux Philippiens, je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses parce que cela vous est salutaire. Donc c'est lié au salut. Il y a énormément de textes sur le pardon dans la Bible. Pourquoi tant et tant de chrétiens rétrogradent? Pourquoi tant et tant de chrétiens ne comprennent pas la portée du pardon, la beauté du pardon, la puissance du pardon? Nous pourrions, pour juxtaposer ces textes, prendre des textes où maintenant Dieu nous indique que nous, à notre tour, nous devons pardonner, que si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas. Et s'il y a beaucoup de chrétiens véritables qui ont rétrogradé, c'est pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas été droits et sérieux avec des enseignements aussi sérieux. Car des enseignements sur le pardon, croyez-moi, il y en a. Il y en a, c'est impressionnant. Toute la guérison dépend du pardon. Bien souvent, je ne parle pas de la guérison physique, mais la guérison spirituelle. Il y a des chrétiens qui sont perdus à jamais parce qu'ils ont dit, moi, je ne pardonnerai pas. Et ils ont cru bien faire, et je peux vous dire qu'ils ont mal fait. Alors, nous sommes dans un monde difficile, nous sommes dans un monde de plus en plus compliqué. Vous connaissez les prophéties du Seigneur Jésus lui-même, qui expliquent que dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi. C'est écrit ou c'est pas écrit? Que l'amour se refroidira. L'amour du plus grand nombre. C'est pas, il n'a pas écrit, l'amour de trois ou quatre ou de quelques-uns va se refroidir. L'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité. Il est dit que les gens perdront la conscience. Ils perdront la conscience. Vous voyez, ça va même plus loin que la foi. Ça va même dans la conscience, parce que tout ça, ça s'entremêle. Et pourtant, les gens deviendront, ils auront l'apparence de la piété. Et en même temps, ils seront de plus en plus irreligieux. Pour avoir l'apparence de la piété, il faut aller dans une église. Pour avoir l'apparence de la piété, il faut avoir sa Bible sous le bras, lire, chanter quelques cantiques. Mais l'apparence de la piété, c'est une chose. Et la vraie piété, c'en est une autre. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que nous savons nous-mêmes où nous en sommes? Est-ce que vous le savez où vous en êtes avec Dieu? On ne sait pas toujours où on en est. Mais une chose est certaine, nous avons besoin d'entendre et de réentendre des choses solennelles par rapport au sang de Jésus-Christ. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans l'Ancien Testament, lorsque la loi était transgressée, il n'y avait qu'un moyen. la purification avait lieu par le sacrifice d'un animal. Je ne sais pas ce que tous les étrangers devaient penser lorsqu'ils allaient à Jérusalem. Je ne sais pas. Quoique, quand vous regardez même des émissions sur des tribus complètement perdues au fond de l'Amazonie, vous voyez presque partout ce besoin de sacrifier un animal, de verser du sang pour obtenir le pardon ou la protection. Vous l'avez déjà vu, ça, dans des reportages, certainement. Donc, ça prouve que c'est ancré dans la conscience de l'homme. Donc, Dieu a voulu, dans l'Ancien Testament, que des sacrifices soient faits chaque fois qu'il y avait transgression de la loi. Il enseignait par là que seul le sang et uniquement le sang pouvait effacer les péchés. Bien sûr que des millions d'animaux ont été sacrifiés. Il y a des gens qui n'acceptent pas ça, ils disent « mais c'est pas normal que Dieu ait permis un truc pareil ». Vous rendez compte, les millions d'animaux qui ont été sacrifiés. Jusqu'au jour où il y aurait un grand sacrifice. Pas de millions d'animaux, mais d'un homme, d'un Dieu. J'ai beaucoup hésité avant de dire que Dieu avait versé son sang. Parce que je sais que je vais recevoir des courriers par rapport à cette affaire. Et quand je priais hier, je disais, Seigneur, c'est vrai que c'est toi, Dieu, qui a versé ton sang. Alors, je savais que dans la Bible, il y avait un verset, c'est pour ça que je l'ai dit. Dans Actes chapitre 20, et j'aimerais que vous vous souveniez que c'est écrit que Dieu a versé son sang précieux, pour que nous comprenions bien que Jésus est Dieu incarné. Et ça, je crois qu'il faut le redire. Dans une société, je parle de religieuse, où on ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, je vous dis que l'apôtre Paul a écrit cette parole, acte 20, verset 26, il déclare qu'il est pur du sang pour expliquer qu'il faut que les gens entendent la vérité. Ce n'est pas une doctrine de l'Ancien Testament, le fait que les pasteurs soient purs du sang des chrétiens. Acte 20, verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître, regardez bien, c'est un verset que vous pouvez souligner, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Des fois on parle du sang de Jésus, bon mais c'est sûr, c'est évident. Mais ce texte nous parle du sang de Dieu. Vous le voyez comme moi? Oui, l'Église que Jésus s'est acquise, que Dieu s'est acquise, il s'est acquise par le sang précieux de Dieu. Parce que pour beaucoup de gens, Jésus, c'est un prophète, c'est un apôtre, c'est un enseignant. Pour d'autres même, c'est un révolutionnaire. Non, non, non. Jésus est Dieu incarné en chair, qui est venu pour vous et moi. Et tout ce qui s'est passé avant la croix doit être rappelé. Nous le rappelons succinctement parce que Dieu nous demande de le faire chaque fois que nous nous retrouvons et que nous devons célébrer la scène. C'est une institution de Dieu, du Seigneur Jésus lui-même. Et je crois qu'il est vraiment nécessaire que les chrétiens réentendent ce qui s'est passé à Gethsémané, dans le jardin, chez Caïphe, chez Pilate, ce qui s'est passé à Golgotha, et on va le voir ce matin. J'aimerais qu'on le revoie, parce que je pense que c'est important de réaliser que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, mes frères et sœurs. Dans Luc 22, on va voir quelques textes où Jésus a versé son sang. Matthieu, alors il y a tous les évangiles qui en parlent, bien entendu. J'ai dit quoi, Matthieu? Non, on va lire Luc. Luc 22. Dans Luc au chapitre 22, vous savez ce qui s'est passé. Jésus a mis le comble à son amour, il a enseigné la Sainte Cène, il a enseigné tant et tant de choses. Mais au verset 40, on va lire à partir du verset 39 jusqu'au verset 46. Mes frères et sœurs, c'est important, croyez-moi. Bien sûr, vous qui n'êtes pas sauvés, c'est important que vous écoutiez deux fois mieux. Mais croyez-moi les chrétiens, écoutez bien, afin que vous ayez un grand respect de notre Seigneur et Jésus. Luc 22, 40, 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, sur la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous vous rendez compte ? Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Vous savez que la tristesse, c'est grave la tristesse. Vous avez vu ce que ça peut faire la tristesse ? Ça peut nous endormir. Et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Il a été bon le Seigneur. Hein ? Vous ne croyez pas qu'il aurait pu être un peu plus sévère ? Eh oui. Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Seigneur est en train de prier. Pour qui il prie au fait ? Pour vous. Pour toi. Pour toi qui ajourne continuellement le salut depuis des années que tu viens de cette église. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas sérieux. Il répand son âme dans la prière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce n'est pas un super apôtre, un grand homme de Dieu. C'est le Christ, c'est Dieu. Vous entendez ? C'est Dieu lui-même dépouillé de sa gloire. Bien sûr, vous comprenez bien que si Dieu était descendu avec sa gloire, il n'y a personne qui restait vivant. C'est écrit que nul ne peut voir Dieu et vivre, donc il fallait qu'il vienne de cette façon. Et il est là, dans le jardin de Gethsémané, il prie. Moi, je me souviens qu'on m'avait invité en Israël pour un séminaire, parce que j'étais en Polynésie, on m'avait demandé un pasteur des extrémités de la terre pour présenter l'œuvre de Dieu, etc. Et j'ai demandé, bien sûr, aller au jardin des Oliviers. Mais moi, j'étais bouleversé. J'ai dit, c'est là que ça s'est passé. Que Jésus a prié pour moi. C'est merveilleux, oui ou non ? Il prie, alors vous allez me dire, ouais, mais c'est trop général, c'est trop compliqué pour moi. Il prie pour toi. C'est sûr que tout ça, ça nous dépasse parce qu'on est des petits vermisseaux. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur, il n'est pas en train de prier, il n'est pas en train de suer pour gagner du pain. Nous, on sue pour le pain. Vous me suivez ? Nous, on sue, on transpire pour gagner la croûte, comme on dit. Il est en train de suer des grumeaux de sang pour le salut de ton âme. Avec des cris et avec des larmes. Et j'en profite peut-être pour corriger quelque chose qui doit être corrigé, qui est prêché dans presque toutes les églises. Quand Jésus dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, le Seigneur, il n'est pas en train de demander d'éviter la croix. Mais c'est grave cette affaire. Jésus est venu pour ça. Il savait toute sa vie qu'il était venu pour ça. Mais moi je suis furieux. Quand je lis que des pasteurs, des théologiens disent qu'au dernier moment, Jésus a demandé d'éviter la croix. Ce n'est pas vrai. Vous savez ce que Jésus a demandé ? Il a demandé de ne pas mourir. Parce que normalement, un homme qui sue des grumeaux de sang, il va de suite mourir. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, je vais essayer de vous retrouver le texte de suite. Excusez-moi, je ne l'ai pas pensé, je ne l'ai pas. Mais quand il est dit qu'il a été exaucé, alors, oui, regardez bien avec moi, c'est important mes frères et sœurs, parce que c'est une aberration de croire que Jésus a demandé de ne pas aller à la croix. Il est venu pour ça, il a donné sa vie pour ça, et pas un instant il a hésité. Regardez bien, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, et au verset 7, fait allusion à cette affaire, il nous dit quelque chose qui nous prouve ce que je vous dis, parce que ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé, je l'ai compris par la parole. Hébreux chapitre 5, verset 7, regardez bien. C'est important, mes frères et sœurs. Jésus n'a jamais hésité. Ça serait grave. Il n'a pas hésité. Regardez la preuve. La preuve, elle est là. Hébreux 5, verset 7. C'est lui, dans les jours de sa chair, qui a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qu'il pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Alors, regardez bien. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il nous rappelle ce qui s'est passé à Gethsémané. Il nous est dit qu'il a prié avec des cris, avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de... Est-ce qu'il est mort Jésus? Eh oui, il l'a sauvé de la mort à Gethsémané. Parce que, puisqu'il est dit qu'il a été exaucé. Donc cette prière, elle pourrait dire, tiens, il prie pour le sauver de la mort et il a été exaucé. Oui, il a été exaucé à Gethsémané, il n'est pas mort parce qu'il fallait qu'il meure sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il suait des grumeaux de sang, il a failli mourir. Moi, j'ai vu plusieurs chirurgiens chrétiens qui ont fait... J'aurais dû vous l'imprimer, ça, et vous le donner. Des chirurgiens chrétiens qui sont penchés sur cette affaire des grumeaux de sang de Jésus-Christ, et ils sont tous catégoriques, quand un homme viendrait à transpirer du sang, son cœur s'est tellement dilaté que c'est obligé qu'il va lâcher. Et Jésus a prié pour ne pas mourir à Gethsémané. C'est vraiment se moquer de Dieu que de penser qu'au dernier moment, si c'est pas ta volonté, t'as pas une autre solution. Non, mes frères et sœurs, il faut pas mépriser le sang du Seigneur. Le Seigneur Jésus, avant la fondation du monde, avant la fondation du monde. Est-ce que c'est écrit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde? Est-ce que c'est écrit? Donc Dieu savait lui-même qu'il viendrait en chair et en os offrir sa vie en sacrifice. Vous comprenez bien que ce n'est pas au dernier moment qu'il allait dire « si tu n'as pas un autre moyen, moi je ne sais pas trop, je souffre trop ». Non, il a prié pour ne pas mourir à Gethsémané, parce qu'il fallait qu'il meure au calvaire. Parce que toute la Bible enseignait qu'il fallait que Jésus-Christ soit crucifié. Mes frères et sœurs, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce n'est pas l'Église qui sauve. Vous savez, il y a une dénomination en France et dans le monde entier qui indique que pour être sauvé, il faut être membre de leur Église. En dehors de l'Église, vous connaissez l'Église à laquelle je fais allusion, en dehors de l'Église, pas de salut. C'est le premier point de la doctrine. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'étudier les doctrines des diverses religions, mais je peux vous dire que c'est une abomination. Ce n'est pas une église qui sauve. Ce n'est pas une dénomination qui sauve. Si vous voulez aller au ciel, si vous voulez être pardonné, il vous faut passer par le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est pour ça que dans quelques minutes, nous allons prendre le pain et le vin avec beaucoup de reconnaissance. Et je pense surtout aux gens qui ne peuvent pas le prendre parce qu'ils sont dans le péché, parce qu'ils ont perdu la communion avec Dieu, parce qu'ils ne sont pas encore convertis. Mais, excusez-moi l'expression, mais affolez-vous! Parce que moi je vous dis que Jésus va revenir et que vous allez rester tout seul et que vous allez pleurer, grincer des dents parce que la colère de Dieu va venir une fois que l'Église va être enlevée. C'est sérieux. Il sue du sang, il ne sue pas de la sueur, il sue du sang parce qu'il travaille pour ton éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni soit Dieu pour ces cantiques, oui, qu'ils ont rappelé le sang. Et on ne s'est pas concerté, Jonathan. On n'avait pas téléphoné pour savoir quel était le sujet de ma méditation. Que Dieu soit béni. Après, ce n'est pas grave. Les meneurs de chant, ne vous offusquez pas. Si vous n'avez pas la même pensée que le prédicateur, il peut y avoir plusieurs pensées différentes dans un culte. Ne vous offusquez pas. En tous les cas, le Seigneur, il est en agonie. Il prie pour toi. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être rempli de reconnaissance? Ou est-ce qu'il faut s'y habituer? Est-ce que vous réalisez? Avec des cris, avec des larmes, il est là. Il a demandé à Pierre, à Jacques et à Jean de l'accompagner pour passer une heure avec eux dans la prière. Et eux, ils se sont endormis. C'est pour ça, mes frères et sœurs, veillons à ne pas, de sorte à que ce que nous voyons nous entraîne dans la tristesse. Il y a des chrétiens qui sont attristés. Seigneur, fais qu'il y ait la paix sur la terre. Alors écoutez-moi, je vais vous dire, cette prière, faites-la, si ça vous fait du bien. Mais ça va pas, elle ne va pas être exaucée. Qu'il y ait la paix dans votre cœur? Oui. Qu'il y ait la paix dans l'Église? Oui. Qui est là près entre nous, alléluia. Parce que justement, le châtiment qui est tombé sur Jésus nous donne la paix. Mais laissez-moi vous dire que la paix dans le monde, ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors vous priez, moi, on n'a pas jugé la prière. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des prières que Dieu n'exaucera pas. Quand j'entends, Seigneur, qu'il y ait la paix entre les Juifs et les Palestiniens, laissez-moi vous dire que c'est mal parti. Et si vous connaissez les prophéties, vous n'allez pas prier dans ce sens. Vous allez prier, Seigneur, garde les chrétiens en Israël, garde les chrétiens en Palestine, garde les chrétiens en Cisjordanie. Vous allez prier comme ça, parce que je crois que Dieu veille sur son Église. Et nous devons prier dans ce sens et ne pas nous endormir de tristesse. Il y a plein de chrétiens qui sont tout le temps en vrac, tout le temps tristes. Écoutez, vous devriez prendre la décision de dire « Je refuse cette tristesse, je prends courage et moi je veux être là ». Jésus a été très, très soft, excusez-moi l'expression. Mais voyez, vous dormez, levez, bon maintenant vous pouvez dormir. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous attend à l'heure de la prière. Il nous attend. Le combat est âpre, le combat est rude. Et je crois que nous devrions quand même réorienter nos priorités, dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je peux vous dire que Dieu veut que l'Église prie. Je l'ai déjà dit 50 fois, le seul nom que Dieu donne à l'Église, c'est « Ma maison sera une maison de prédication ». C'est ça ? Non, « Ma maison sera une maison de prière ». Le salut des âmes est lié à la prière. Jésus a peut-être souffert plus que de raison, heureusement que Dieu dans sa souveraineté lui a envoyé un ange, mais ses amis qui étaient là, Jésus leur avait dit « asseyez-vous et priez ». Et ils se sont assis, s'endormis. Que le Seigneur nous garde, mes frères et sœurs. Est-ce que Jésus était triste aussi ? Est-ce que c'est écrit que Jésus était triste à la mort ? Est-ce que ça l'a endormi ? Non. Eh oui. Oui, quel merveilleux, quelle reconnaissance. Eh oui, il était triste à la mort. Il travaille pour nous, il a travaillé pour nous, que son nom soit béni. Quand je pense qu'il y a des gens qui disent « si Dieu nous aimait, il ferait quelque chose ». Eh oui, quel aveuglement. Oui, les commandements, on l'a lu tout à l'heure pour la présentation de Matthéo. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Alors, de ce jardin, on l'a arrêté par un de ses meilleurs amis. Vous avez vu ce qui se passe quand Judas arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Judas arrive avec les sacrificateurs. Et qu'est-ce que fait Judas ? Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Alors Pierre, regardez, je vous donne un exemple. Pierre, un jour, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Alors bien sûr, il est insensé parce que ça vient de Dieu. Cinq minutes après, « Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Et Jésus dit à Pierre « Arrière de moi, Satan ». Judas arrive pour le renier, pour le faire arrêter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le pauvre. Il arrive pour le faire. Je pense qu'il devait penser que Jésus s'en sortirait. Toutes les fois qu'on a essayé de l'arrêter, il s'en est sorti. Il a dû se dire, bon, même si je fais, je ne sais pas, moi je fais mes petits films. Il a dû se dire, de toute façon, Jésus s'en sortira. Bon, qu'importe. Et quand Judas embrasse Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit Jésus ? Arrière de moi, Satan ? Mon ami. Moi, ça m'a choqué, ça, moi. Il dit à Judas, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, c'est facile à comprendre quand on comprend la croix. Tout ce qui approchait Jésus de la croix ne pouvait qu'être béni. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça devrait être un peu pareil pour nous. Tout ce qui nous approche du calvaire devrait être accepté. Si quelqu'un, si Dieu utilise quelqu'un, ça va nous contrarier. Mais si ça nous amène au renoncement, si ça nous amène encore plus de piété, bénissez le Seigneur. Des fois, on est contrarié. Bien sûr qu'on ne va pas dire mon ami. On va dire même, c'est un ennemi. Mais croyez-moi, il y a des situations qui nous approchent du calvaire de plus en plus à nous. Quelle bénédiction. Donc, on l'amène dans ce jardin. On l'amène à Caïphe. Vous savez, vous connaissez Caïphe ? Le souverain sacrificateur cette année-là, franchement, on n'en parle jamais de cette affaire. Dans Matthieu 26, on l'amène à Caïphe, parce que Caïphe avait prophétisé que cette année-là, il valait mieux que Jésus meure. Vous voyez les prophéties ? Matthieu 26, vous savez, je le répète ce matin, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Matthieu 26, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Il y a tellement de versets, on va parler de 57. Regardez bien, vous savez, c'est important. Vous êtes d'accord qu'on relise des textes sur la façon dont Jésus a versé son sang ? Ou est-ce que vous êtes de ces chrétiens qui disent « mais nous, on n'a pas besoin d'être évangélisés, on n'a pas besoin de sang, on le sait ?» Vous savez, il y a des églises, on ne parle plus du sang de Jésus. Vous le savez ? Matthieu 26, 57. « Ceux qui avaient saisi Jésus... l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés pour un procès de nuit, justement ce qui était interdit. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs. Vous connaissez le reniement de Pierre. Verset 63. Malgré toutes ces accusations, qu'est-ce que Jésus fait ? Jésus garde le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant : Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de l'entendre ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous ensemble. Ils répondirent : Il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant : Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Vous voyez comment les gens sont intelligents. Ils lui crachèrent au visage. On vous a déjà craché au visage ? Ils lui donnèrent des coups de poing. Vous vous rendez compte ? Est-ce que quand on lui a donné des coups de poing, on n'en parle jamais, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il a pu là aussi verser du sang quand on lui a donné des coups de poing ? Il n'a rien dit. Est-ce qu'il aurait pu intervenir ? Vous avez vu ce qu'il avait dit au verset 53 à Pierre qui commençait à s'affoler pour cette affaire ? Vous avez vu ce que... Moi, c'est une parole qui m'a bouleversé. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui à l'instant me donnerait plus de... 12 légions d'anges, je crois que ça fait 60 000 quelques mille anges. Est-ce qu'à cet instant-là, Jésus aurait pu dire aux anges, faites un peu de ménage ? Est-ce que Jésus aurait pu le faire ? Pourquoi il n'a pas fait ? Parce que sans effusion de sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon. Mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire. Si nous voulons rester tendres, vous voulez rester tendres jusqu'à la fin ? Il y a des moments où il faut se blinder un peu, mais vous avez compris. Il y a des choses pour lesquelles il faut se blinder, mais il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux rester tendre. Entre autres, le sacrifice de Jésus-Christ. Il est amené à Pilate, chapitre 27. Vous connaissez le pauvre Pilate, le pauvre Pilate. L'histoire raconte qu'il s'est suicidé quand il est rentré à Rome pour sa retraite. Je pense que c'est vrai, ça ne m'étonnerait pas. Il est amené à Pilate, Matthieu 27, que je ne me trompe pas, verset 2. Après l'avoir lié, vous voyez, ils l'ont lié comme un animal. Vous voyez, rendez compte ? Ils l'ont attaché comme une bête. Comme une bête. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Vous voyez ? Chez Pilate, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on l'insulte. Vous ne trouvez pas que c'est terrible cette affaire, tout le temps en train de l'insulter ? Alors que tout le monde savait très bien qu'il avait fait que du bien. Vous voyez comment le péché, ça nous détruit. Matthieu 27, 25. Tout le monde répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Je peux vous dire qu'ils l'ont payé cher cette parole. Il faut faire attention à nos paroles par rapport à Dieu. Alors Pilate le relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, encore une fois du sang versé, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire où ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, c'est-à-dire le régiment, quoi, enfin une compagnie. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête, je m'autorise à rajouter, couronné d'épines. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Vous voyez ? On l'insulte, on se moque de lui, on prend le manteau, vous savez le manteau rouge là ? Si vous avez lu les Astérix, vous savez ce que c'est, les centeniers. Se démarquaient, ils avaient une compagnie de 100 soldats. Et le centenier se reconnaissait parce qu'il avait une cape rouge. Donc, pour se moquer de lui, on prend la cape d'un officier, on la met sur lui, c'est pour se moquer. C'est pour se moquer, ça n'a pas changé beaucoup. On se moque de lui, on fait une couronne d'épines, là, je peux vous dire que là, ils ont suivi de trouver ce qu'il fallait. Qu'à chaque fois que je taille mes rosiers, j'y pense. Ça ne vous arrive pas quand vous taillez, quand vous coupez un rosier, juste, on l'a vite fait. Chaque fois que je taille un rosier, je pense. Mes frères et sœurs, et il n'a rien dit pour toi. Toi qui restes indifférent depuis 3 ans, depuis 5 ans, qui viens là, qui écoute, si le sermon est d'aplomb, tu ferais mieux de réfléchir à ces choses. Parce que sans effusion de sang, tu ne seras jamais pardonné. Ouais. On ôte ses vêtements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est terrible, non ? Vous vous rendez compte, si on prenait quelqu'un au hasard, lui voilà, déshabille-toi. Ouais, c'est grave. Mais ça veut dire, spirituellement, c'est beaucoup plus grave. Parce que quand il est écrit au verset 28, il ôtère ses vêtements, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça représente qu'on a ôté à Dieu, au Seigneur, sa divinité. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Parlez de Jésus, dites « Jésus est Dieu ». Vous allez dire, mais n'importe quoi. C'est ça, ôter les vêtements. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il est digne? Est-ce qu'on ne lui ôte pas sa sainteté? Est-ce qu'on n'a pas dévêtu notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui de sa vérité? De sa bonté. Alors sa bonté, j'hésite. Parce qu'on parle beaucoup de la bonté du Seigneur aujourd'hui. Dans toutes les églises, on parle de la bonté. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, en boucle, Dieu est bon. Mais je ne suis pas du tout sûr que la bonté qu'on élève dans les églises corresponde à la véritable bonté biblique. Parce que la bonté biblique, elle nous pousse à la repentance. La bonté biblique, ça nous pousse pas à la légèreté, à appeler Dieu papa ou papounet et à dire que le Seigneur est notre copain. Non, la bonté de Dieu, elle nous pousse à la repentance et au respect devant chaque verset de l'Écriture. Oui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et si vous allez au ciel, ça ne sera pas parce que vous êtes pentecôtiste ou parce que vous êtes meilleur qu'un autre. Vous irez au ciel parce que vous aurez accepté le sang de Jésus qui lui seul peut vous donner le pardon de vos péchés, que son nom soit béni, vous pouvez dire amen. Vous avez vu, on le dépouille de son manteau, on tape sur sa tête couronnée d'épines. Vous savez, c'est... Il faut vraiment être méchant quand même. Vous feriez ça, vous, un animal même ? Est-ce que vous feriez ça, un animal ? On ne le ferait même pas pour un animal. Et là, ils l'ont fait. Et des gens sophistiqués, ce n'étaient pas des imbéciles, ce n'étaient pas des minables, c'était des religieux, c'était des gens qui avaient la classe. Vous avez vu le cœur de l'homme qui se cache derrière la religion ? Ouais, c'est terrible. Et on continue à se moquer, on l'a fait battre de verge. Quand je me suis converti, je me souviens avoir entendu une femme qui pleurait dans l'église. Ça m'avait touché, ça m'avait un peu énervé. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette femme ? Elle pleurait, elle criait, elle pleurait. Enfin, elle pleurait, elle disait, Seigneur, on t'a arraché la barbe. J'ai dit, mais elle a lu ça où ? Moi, ça faisait 6 mois que j'étais converti. Mais c'est bien qu'on le lise. Vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas lues, qu'on a mal lues. Dans Ésaïe 50, c'est une prophétie. Vous savez, il faut le lire ces choses, il faut le lire. Oui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont être sauvés que par leur religion. Non, votre religion, elle ne vous sauvera pas. Ésaïe 50, verset 6, ce n'est pas parce que vous avez un ministère, vous qui m'écoutez sur Internet, que vous pensez être meilleur. Non, vous ne serez pas sauvés parce que vous avez un ministère ou un don. Vous serez sauvés par le sang de Jésus. Ésaïe 50, verset 6, « J'ai livré mon dos. » Il l'a livré. Il s'est laissé faire. D'ailleurs, il dit, « J'ai été comme un ver. » Un ver de terre. Vous vous rendez compte ? Un ver de terre. Vous avez déjà marché sur un ver de terre ? Vous marchez sur un chien, sur la queue d'un chien. Qu'est-ce qu'il va vous faire, le chien ? Vous marchez sur un ver, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va rien dire. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et voilà l'aspersion du sang. Voyez. On ne peut pas rester insensible. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans les églises, on entend de ces choses le cœur sec ? Est-ce que votre cœur est sec ce matin ? C'est une question qu'on a le droit de poser, oui ou non ? Comment je réécoute cette histoire, l'histoire, la véritable histoire. À Noël, des millions de gens vont célébrer la naissance du petit Jésus. les yeux secs. Leurs yeux s'humidifient un peu lorsqu'ils ont bu 3 ou 4 verres de sauterne, ça je suis d'accord. Mais je pense qu'il vaudrait mieux que nos cœurs soient un petit peu plus humides quand on entend l'histoire de Jésus-Christ. Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs? Il n'a pas dérobé son visage, alors qu'il a dit, on l'a lu, je l'ai relu. Il aurait pu invoquer, je ne sais pas comment les anges regardaient cette affaire, parce que les anges, ils sont tous soumis à Jésus. Oui ou non? Les milliards d'anges qui existent, certains sont très, 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 très puissants. Ils devaient attendre un regard de Jésus. Moi, je ne sais pas comment les anges regardaient cette réunion d'évangélisation. Ouais. Le meurtre de notre Seigneur, c'est un meurtre. C'est un assassinat. Chacun le dit, chacun l'appelle comme vous voulez. Mais mes frères et sœurs, la Sainte Cène, c'est chaque fois ça. Je me rappelle cette affaire. Pourquoi je prie ce thème? Pourquoi Dieu m'a certainement inspiré ce thème? Je le pense. Parce qu'il y a trop de gens qui rétrogradent. Ils ont l'apparence de la piété. Ils prennent le pain et le vin. Monsieur Lafayette, je me rappelle une fois, me raconter. Ça m'avait choqué, ça. Ici, à Saint-Agne, qu'il y avait une dame qu'il avait dû mettre en discipline. Quand elle avait pris le vin, elle lui avait dit, ah, voilà votre. Je ne sais pas si vous l'aurez. Monsieur Lafayette a été obligé de mettre cette femme en discipline. Vous deviez y être. Hein, ouais. Bien sûr, ce n'est pas étonnant que quelques jours après, elle ait rétrogradé. Mes frères et sœurs, on a assassiné le Seigneur. C'est Dieu. Vous allez me dire, non, mais s'il était Dieu, c'est ça le problème des Juifs aujourd'hui. S'il était Dieu, il n'aurait pas accepté tout ça. C'est pour ça que les Juifs rejettent Jésus-Christ. Parce que pour les Juifs, quelqu'un qui est cloué sur une croix, il est maudit, donc dans leur tête à eux, et ça tient debout, humainement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, humainement ça tient debout, il n'est pas possible que le sauveur du monde ait été crucifié comme malfaiteur, c'est impossible, dans leur tête à eux, et ça tient debout, intellectuellement, mais mes frères et sœurs, si on va au ciel pour l'éternité, c'est parce que Jésus a vécu ces choses, il n'y a aucun pardon en dehors du sang de Jésus-Christ. C'est une parole de Dieu. Regardez Ésaïe 53, on était dans Ésaïe 50, Ésaïe 53, voyez, le verset 10, parce qu'il y a beaucoup de gens, et vous comprenez, ce n'est pas possible, il y a beaucoup de gens sophistiqués, vous savez aujourd'hui. Ésaïe 53, surtout en France, Ésaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il y a des millions de gens qui rejettent le sang de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps dans une réflexion intellectuelle. Non, c'est pas normal, je suis indigné, c'est injuste, le Seigneur ne pouvait pas mourir de cette façon, ce sont les Juifs qui l'ont crucifié, ou ce sont les Romains, chaque année ils te sortent 2 ou 3 journaux religieux, où chacun se renvoie la balle, justement, pour essayer de prouver que c'est pas notre péché, on l'a lu, c'est l'iniquité de nous tous qui a crucifié Jésus-Christ. C'est votre péché, c'est mon péché, c'est ma misère. Et tous les gens qui sont là, oh, c'est inhumain, c'est pas possible. Non, moi je ne reçois pas cette parole. Mes frères et sœurs, c'est la plus grande preuve d'amour qui a jamais été manifestée sur la terre. La crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. C'est la manifestation de l'amour. C'est la manifestation de l'amour infini et éternel. Vous entendez? Vous le croyez ça? Voilà, et ne soyez pas de ceux qui disent, oh non, moi je... Non, 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 c'est peut-être une façon intelligente de ne pas se repentir. Et croyez-moi, si ça vous déplaît, j'en sais rien, moi ça m'est égal, mais sans effusion de sang, vous ne pourrez jamais être pardonné du sang du Seigneur. Ce n'est pas à peine de faire des sacrifices. Bien sûr, dans bien des endroits, on fait plein de trucs pour être pardonné. On dit aux gens, mais si vous voulez être pardonné, eh bien, il vous faut faire des œuvres. Vous êtes sauvés par les œuvres. Quand un homme meurt, instantanément, il part ou au paradis ou dans un lieu de tourment. Dans le paradis, pour la gloire, etc., en attendant de rendre des comptes, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, on n'a pas le temps d'expliquer ça. Ou alors, un lieu de tourment pour le jugement dernier. Il n'y a pas de purgatoire. Le seul moyen d'être sauvé, c'est pas que notre famille paye des milliers d'euros après. Parce qu'il y a des gens qui disent, quand je serai mort, il y a des gens dans leur testament, il faut mettre, voilà, je demande à ce que une partie de mon héritage soit donnée à telle dénomination. Et tous les mois, on donne temps pour faire pour des prières, pour faire des neuvaines. Je sais pas, peut-être, moi je sors de l'Église catholique. Et jamais, j'étais pas chrétien, bien sûr, je regardais. Et je trouvais que c'était complètement absurde. Mes frères et sœurs, le seul moyen d'être sauvé, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Sainte Seine devrait être prise avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Je sais pas comment vous la prenez, la Sainte Seine, mais je pense humblement que si beaucoup de chrétiens sont légers avec la Sainte Seine, d'ailleurs, même dans notre mouvement, il y a des églises où on ne prend la Sainte Seine qu'une fois par mois. Moi, je trouve que c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est bien de la prendre tous les dimanches. Oh, il ne faut pas la prendre tous les dimanches parce qu'on s'y habitue. De toute façon, le gars qui la prend une fois par mois, une fois par... ou trois, quatre fois par mois, s'il n'est pas sérieux, c'est pareil. Hein. Moi, je crois que c'est bien de la prendre chaque fois qu'on se rassemble, le dimanche. Et de le faire avec beaucoup de sérieux. Mes frères et sœurs, ne croyez pas ces mensonges. Le seul moyen pour vous d'aller au ciel, c'est de croire au sang de Jésus-Christ. Moi, j'ai vu des gens, vous savez, qui avaient une vie... des chrétiens, hein, qui avaient une vie pas très pieuse. Mais à la fin de leur vie, quand je savais qu'ils allaient mourir, je leur ai dit, est-ce que vous croyez toujours que le sang de Jésus vous purifie de vos péchés? Ces gens m'ont dit, oui, oui, monsieur le pasteur, je le crois. Merci Seigneur. Ces gens-là sont partis au ciel parce que le sang de Jésus nous purifie. Vous voyez, il y a des gens qui font des chemins de croix tous les ans. Vous le savez qu'il y a des gens qui font des chemins de croix, qui vont, mais c'est un truc de fou. Moi, j'ai vu des reportages, ils partent d'une église, ils vont en haut de la colline, ils font les chemins de croix, ils se font saigner les genoux et ils s'imaginent obtenir le salut parce qu'ils se sont fait saigner les genoux. Il y a des gens au Brésil chaque année qui se font crucifier. Bon, ils se font crucifier momentanément. Ils se font crucifier. Après, on les descend, ils vont à l'hôpital, etc. Et ils s'imaginent qu'ils vont être sauvés parce qu'en faisant ce sacrifice extrême qui pourrait être l'objet du salut, qui pourrait montrer une véritable piété, vous pouvez tout donner, tout faire. S'il n'y a pas l'amour de Jésus-Christ pour son sang précieux, vous ne serez pas sauvés. Alors on va terminer avec un autre jardin. Il y a la crucifixion, bien sûr. Le jardin. Vous savez que Jésus a été crucifié et qu'un certain Joseph d'Arimathée, qui avait assisté à tout ça, un homme riche, il avait fait faire son tombeau. Et quand il a vu ça, il a demandé à ce que Jésus soit enterré dans son tombeau. Et il y avait une prophétie qui disait qu'il serait enterré dans le tombeau d'un riche. C'était pas loin de Golgotha. Donc il arrive, il fait embaumer le Seigneur, il prépare le Seigneur et il l'amène dans ce jardin. C'est écrit, c'est un jardin. Et là, il l'enterre. Voilà, et tout le monde est détruit. C'était terrible cette soirée-là à Jérusalem. Non ? Ça devait pleurer dans les maisons, vous ne croyez pas ? Et Marie de Magdala et toutes ses maries. Je pense que ça devait quand même pleurer. Ça devait vraiment réfléchir. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont dormi cette nuit-là. Mais Jésus était mort. Tout s'écroulait. Ce n'est pas le jardin de Gethsémané, c'est le jardin d'Arimathée. Mais quand même. Et là, c'est ça qui est merveilleux. Parce que si Jésus avait commis un péché, parce que moi, je suis pas content quand les gens... Mais Monsieur Gau, vous avez regardé cette émission? Jésus, apparemment, il se serait marié. Comme mon docteur, une fois, qui me dit, Monsieur Gau, vous allez être content, on a retrouvé le tombeau de Jésus. Ah bon? Et il ne faut pas creuser vers la terre pour le trouver, j'ai dit. Il faut creuser vers le haut. Jésus, il n'est pas dans la terre. Jésus, il est sur son trône dans le ciel, c'est le Seigneur et ça devrait être le vôtre. Et j'ai dit, vous feriez bien de l'accepter. Alors, comme je pointais le doigt comme ça, il me dit, qu'est-ce que c'est ce doigt accusateur? J'ai dit, écoutez, il vous faudra le rencontrer et vous ne le trouverez pas en bas. Mais quelle bénédiction! Jésus n'a commis aucun péché. C'est pour cela qu'il est ressuscité et que son corps ne pouvait pas être touché par la corruption. Il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Alors il y a des textes dans la Bible qu'on pourrait quand même en lire un ou deux quand même. parce que c'est ça notre victoire. C'est cela qui certifie que le sang de Jésus nous donne le pardon. Non pas que Jésus est mort, mais qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Le tombeau, il est vide. Il n'y a pas de tombe à Jérusalem avec Jésus de Nazareth, il n'y en a pas. Il y a un trône dans les cieux où Jésus règne et on va bientôt le rencontrer. Alors, Hébreux 13, on va lire quand même deux ou trois textes qui nous prouvent ces choses. Les gens le lisent sans trop comprendre. Hébreux 13, verset 20, quand même, c'est des versets, c'est sérieux cette affaire. Alors, il y a plein de versets, mais quand même, bon, on va lire un ou deux, c'est merveilleux. Hébreux 13, verset 20, que le Dieu de paix, qui ramenait d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance passagère. Les sacrifices des animaux, c'était passager. Là, l'alliance, elle est éternelle. Ça vous va bien? Moi, ça me va bien. Notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez dans Hébreux 9, 24. Hébreux chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous, alléluia, devant la face de Dieu. Verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Vous avez vu comment il est entré dans le lieu très saint du ciel ? Avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternel. Voyez verset 10, chapitre 10, verset 19. J'abrège. Hein. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Et vous savez que quand Jésus est remonté au ciel, il nous est dit que sur le mont des Oliviers, il les a bénis. Et c'est ce que Dieu veut faire, mes frères et sœurs, il veut nous bénir. Ne soyons pas endormis de tristesse, ne soyons pas sclérosés par ce qui se passe, ça va s'aggraver. Écoutez-moi bien, ça va s'aggraver. Et ça va s'aggraver 100 fois plus, 1000 fois plus après l'enlèvement de l'Église. Je peux vous dire qu'après l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dormir tranquilles. Croyez-moi. Et que c'est pour cela que Jésus, il est ressuscité, il est vivant. On l'a chanté, c'était tout simple là, ce cantique. Hey, Jésus est mort, c'est ça? Jésus est mort. Il est vivant. Non, il est ressuscité. Et il vit en nous. Ah, que son nom soit béni. Est-ce que vous êtes au Seigneur? Est-ce que vous êtes tous venus au Seigneur? Les adolescents là qui piétinaient, qui attendaient. Je vous le dis, vous endurcissez votre cœur. Vous croyez que vous pouvez, vous arranger. Si vous ne vous repentez pas, et si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne naissez pas de nouveau, chaque dimanche qui passe endurcit votre cœur. Vous le croyez ça ou non? Les chrétiens, vous savez que c'est vrai. Parce que la Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Quand vous n'obéissez pas, vous endurcissez votre cœur. C'est pour ça que moi, je vous le dis avec beaucoup de ferveur. Voilà, Jésus, il est venu, vous êtes perdus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et heureux l'homme, parce qu'il y a des gens, oui, je suis perdu. Eh bien, c'est bien, tant mieux. Si vous dites ce matin, mais je suis perdu, j'ai pas Jésus. Eh bien, bénissez Dieu, ne vous inquiétez pas, au contraire. Parce que tant qu'on ne réalise pas qu'on est perdu, eh bien, on peut pas accepter Jésus-Christ. Si vous réalisez que vous êtes perdu, croyez-moi, vous êtes heureux, croyez-moi. Parce que si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, la colère de Dieu, elle demeure sur vous. Si vous acceptez le sang de Jésus-Christ, bien sûr que ce n'est pas votre caractère qui va tout faire. Mais mes frères et sœurs, si vous acceptez le sang de Jésus-Christ, vous irez au ciel. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Alléluia. Alors est-ce qu'on peut se recueillir? Vraiment se recueillir? Est-ce qu'on peut de tout son cœur lui répondre dans le silence? Vous savez que, je l'ai dit tout à l'heure, la prière, c'est pas que à voix haute. Je vais demander à Jérôme, s'il vous plaît. Vous pouvez choisir des frères? Mes frères et sœurs, la prière, c'est pas que parler à haute voix. La prière, c'est pas qu'être fervent d'esprit avec des décibels. La prière, c'est aussi la contemplation, le recueillement. Moi, le silence, ça me va bien. Le silence plein de grâce, parce que mes yeux sont fixés sur celui qui est remonté avec son sang devant le lieu très saint. quand vous passerez devant Dieu, on ne vous demandera pas si vous étiez évangélique, pentecôtiste, presbytérien, apostolique. On vous demandera qu'as-tu fait du sang de Christ ? Que faites-vous du sang de Jésus ce matin ? Votre cœur est-il comme un glaçon, comme une pierre de meule, pour reprendre une expression de Job ? La pierre de... À un moment donné, je crois que Job vous dit ça. La pierre de meule du dessous. Ah oui, c'est clair que quand notre cœur est comme ça, il a du mal à s'humidifier. Votre cœur est-il rempli de reconnaissance ? Pouvez-vous dire à Jésus, je t'aime Seigneur, ah je t'aime. Vous pouvez le dire ça dans votre cœur, Seigneur, je t'aime, vraiment, merci. Je n'ai pas les mots qui vous conviennent, on a chacun nos mots, mais dites-les lui, dans votre cœur. C'est pas là, si le voisin n'entend pas, ce n'est pas grave, Dieu entend, je vous le dis. Le sang précieux de Dieu, eh ouais. Le sang précieux. Il a du prix, le sang du Seigneur. C'est pour ça que la mort seule de Jésus pouvait sauver tous les hommes. Quand vous allez prendre le vin, le pain, souvenez-vous qu'il représente qu'il a été brisé pour notre guérison. Mais notre guérison spirituelle et la guérison physique, béni soit Dieu. Ce matin, si vous êtes malade, vous pouvez être guéri physiquement. Mais guéri physiquement, il y a des gens qui sont guéris deux fois, trois fois et qui sont en enfer. Ils ont été guéris, ils sont venus, priez pour moi, imposez-moi les mains. Mais c'est bien, on l'a fait. Dieu les a guéris parce que Dieu est bon. Mais ils n'ont pas été guéris spirituellement. Est-ce que vous êtes guéris spirituellement ? Est-ce que vous pouvez dire, c'est vrai, j'ai des progrès à faire, je ne suis pas comme j'aurais dû être, mais Jésus m'a purifié. Ah, vous êtes heureux, oui. C'est pour ça que j'ai dit, vous êtes heureux si vous pouvez chanter, mes péchés ont disparu. Ouais. Notre Père, notre Dieu, tu as versé ton sang, c'est pour cela encore une fois que tu peux entendre nos prières. Que ton nom soit béni, vraiment. Fallait-il que tu nous aimes, Seigneur, pour accepter qu'on te crache dessus, qu'on te crucifie, et que la première parole qui soit sortie de ta bouche, c'est « Pardonne-leur ». Vraiment, Seigneur, merci. Ce merci, tu le vois, Seigneur, il est éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur. Vous qui êtes baptisés par immersion, qui avez accepté Jésus-Christ, levez-vous avec ferveur, avec joie, avec sérieux, avec respect. Oui, levez-vous. Levez-vous maintenant devant Dieu et dites-lui ce que vous avez à lui dire.